Henri Roorda, dit Balthazar, « Apprendre ou à laisser », le programme de lecture du professeur d'optimisme, 1919. Partie 6. L'homme et les animaux. Cet été, en me promenant, j'ai vu, dans un pré, une très vieille femme qui gardait une vache. Ce spectacle mit le trouble dans mon esprit. Que le quadrupède stupide fût la chose précieuse sur laquelle il fallait veiller avec vigilance, et que l'importance de l'être humain se réduisît à celle d'un simple gardien, cela me choquait. La bête ruminante avait-elle donc plus de valeur que la personne pensante? Me serais-je trompée en plaçant mes semblables bien au-dessus des autres représentants du règne animal? Examinons cela. Mon ignorance m'interdit d'aborder le côté philosophique ou théologique de la question. Soyons donc simples. Une chose me frappe d'abord. Si l'homme diffère des animaux, ce n'est pas par la qualité de ses sentiments les plus nobles. Prenons quelques exemples. Notre patriotisme n'est pas plus ombrageux que celui de certaines bêtes fonçant avec un courage admirable sur la bête étrangère qui viole leur territoire. Je connais des cygnes qui ne toléreront jamais que leur lac soit survolé par des cygnes suspects venus de l'autre côté de la frontière. On voit plus souvent, bien que ce soit assez rare, un chien mourir de chagrin sur la tombe de son maître, qu'un maître se coucher pour toujours sur la niche vide de son chien. En cas de danger, la femelle du kangourou met ses petits dans sa poche et se prépare à les défendre jusqu'à la mort. Bien peu nombreuses sont les femmes qui font comme elle. Quant au pélican, lorsqu'il s'agit d'abnégation, il est insurpassable. Au risque de se casser le cou, Roméo s'est hissé jusque sur le balcon de Juliette. Mais il arrive chaque année à des chats amoureux qui veulent refaire le songe d'une nuit d'été de se promener dans des gouttières peu sûres situées à 25 mètres au-dessus du sol. Et les bons serviteurs n'appartiennent pas tous à la race humaine. Il y a des chiens de garde encore plus hargneux que l'employé le plus hargneux des postes françaises, occupés à protéger le sommeil de l'administration contre les importuns qui viennent acheter des timbres. Enfin, maman hareng, comme si elle mettait l'intérêt de la race bien au-dessus des aspirations de son faible cœur, continue à procréer de petits harengs gais dont les 99 centièmes, elle ne l'ignore pas, seront transformés en rôle-mops. Dans le domaine intellectuel, l'homme reprend tous ses avantages. Quoi qu'en ait dit un des plus distingués professeurs de l'Université de Genève, quelques-uns de nos semblables sont bien plus forts en mathématiques que les chevaux. Certains animaux sont des architectes de génie, comme nous. Mais dans l'art de l'ingénieur, je crois que nous battons le record. Les plus remarquables tunnels creusés par les taupes ne peuvent pas être comparés au Saint-Gothard, par exemple. Ici, j'ouvre une parenthèse pour constater que les plus grands tunnels, celui du Mont-Cenis, le Saint-Gothard et le Simplon, viennent d'Italie, d'où nous viennent aussi les meilleurs macaronis, lesquels sont des tunnels pour enfants. En matière de musique vocale, l'homme n'est peut-être pas supérieur au rossignol et à l'alouette, mais le chef d'orchestre constitue une invention exclusivement humaine. Parlerai-je encore de la tenue et de la bienséance? En fait de vilaine manière, je ne sais vraiment pas qui l'emporte. Ce qui est certain, Darwin l'a constaté, c'est que l'être humain est le seul qui se met les doigts dans le nez. L'éléphant se met parfois le nez dans les doigts, mais ce n'est pas la même chose. Tout cela n'empêche pas, dira-t-on, que l'homme est le maître de la terre. Il traite la vache, il plume la poule, il attelle le bœuf, il dompte le lion, il racle le poisson, il truffe la dinde, il écartèle la grenouille, il gave l'oie, il avale l'huître, il écrase la punaise, il boit l'huile de foie de morue et il enfourche le canasson. C'est vrai, mais comme j'ai déjà eu l'honneur de le dire à mes lecteurs, l'homme sera peut-être vaincu par la petite bête. Il est déjà très embêté lorsqu'il a des fourmis dans les jambes, la puce à l'oreille ou une araignée au plafond. La politesse du fonctionnaire. Il y a quelques semaines, une dame m'a arrêtée dans la rue Saint-François pour me prier de bien vouloir mettre, une fois de plus, ma prose vengeresse au service d'une noble cause. Je lui ai répondu : Madame, les nobles causes, c'est ma spécialité. Veuillez préciser. Il s'agirait de protester contre l'impolitesse des employés de certaines administrations. Cette proposition m'a d'abord laissé hésitant. Personnellement, je n'ai jamais eu à me plaindre de l'impolitesse des fonctionnaires auxquels je m'adresse, dans les bureaux où je m'aventure timidement. Mais bien vite, je compris que mes propres expériences ne prouvent rien. Car lorsque j'aborde un être humain, quel qu'il soit, je suis toujours d'une amabilité exquise et désarmante. D'ailleurs, cette aménité ne suffit pas dans tous les cas. Je me rappelais certains dialogues entre l'employé infaillible et l'électeur tremblant, qui m'avait inspiré pour ce dernier, mon semblable, une pitié profonde. Le fait est là. Des gens très bien élevés sont parfois reçus dans les bureaux officiels comme de simples mortels dans un consulat. Examinons donc la question avec courage. Pour commencer, je déclare que dans les disputes qui éclatent entre l'administration et le public, les torts sont presque aussi souvent d'un côté que de l'autre. Tous les hommes sont faits de la même pâte et ils sont tous à plaindre. D'ailleurs, n'est-ce pas quelquefois le même individu qui, dans tel bureau, représente l'État auguste et dans tel autre le peuple souverain? Car à certains moments de la vie, un employé n'est plus qu'un simple particulier qui va au service cantonal du ravitaillement demander un supplément de fromage pour sa femme malade. Mais ici, il y a une distinction à faire. L'état d'esprit des individus n'est pas le même des deux côtés de la barricade. D'un côté, il y a un fonctionnaire, auréolé de prestige, qui parle au nom du règlement ou de la loi. De l'autre, il y a un malheureux désarmé, un ignoble égoïste qui exprime ses désirs mesquins et ses espérances. Ces deux hommes ne parlent pas la même langue, ils ne se comprennent pas. Et souvent, en les écoutant, il m'a été impossible de deviner lequel était le plus bête. Je le répète, les dactylographes, les chefs de bureau, les secrétaires, les comptables, les copistes et les pistos auxquels j'ai eu affaire ne m'ont jamais parlé sur un ton désagréable. Je n'éprouve donc à leur égard aucun sentiment de rancune. Je voudrais même que ces esclaves du devoir, qu'on enferme 8 heures par jour, dans de sales salles qui sentent parfois mauvais, eussent plus souvent le droit d'aller se rouler dans l'herbe avec les grillons et les coccinelles. Mais c'est égal. Quelques-uns d'entre eux ont tort de rabrouer brutalement les malheureux ahuris qui viennent expliquer leur cas. Oui, très souvent, le citoyen qui se présente à l'un quelconque des guichets de l'administration paraît bête aux fonctionnaires bien entraînés et plein d'aisance qui vient lui répondre. Ce spécialiste ne comprend pas qu'un être humain puisse trouver compliquées les choses les plus simples du monde. Il lui dira, par exemple, froidement, « Vous ne savez pas lire ?» Or, le client sait très bien lire, écrire et compter. Il est même docteur en philosophie. Mais il n'a pas vu l'écriteau portant ces mots en grosses lettres. Pour les enfants trouvés, s'adresser au guichet 14. Le fonctionnaire oublie qu'il a sur nous, les ahuris, un avantage immense. Depuis 10 ans, il emploie 200 fois par jour les mêmes formules. Le local où il passe ses journées est un petit univers qu'il connaît admirablement. Il sait la place qui convient à chaque chose. C'est toujours ici qu'il remet le registre vert et là le registre noir. Les yeux fermés, il serait capable de distinguer cette clé qui est la clé du coffre-fort de celle-là qui est la clé des cabinets. Mais moi, je viens dans son bureau pour la première fois et je ne suis pas habituée à son jargon. Si je devais expliquer à ce virtuose comment on résout une équation du troisième degré, chose claire s'il en fut, je me dirais au bout d'un quart d'heure, il est bouché à l'Emery. On est toujours l'ahuri de quelqu'un. Tous les employés d'un bureau qui est situé sur la place de la Palude se sont esclaffés un jour comme des épileptiques sous le nez d'une dame qui venait leur demander ses draps de lit. Or, ces 12 draps de lit, volés par un cambrioleur, vendus à un receleur et retrouvés par la police, étaient bel et bien dans le bureau de ces fonctionnaires joyeux. Si les fonctionnaires étaient très intelligents, ils finiraient par ne s'étonner de rien. Victor Hugo nous a recommandé de ne jamais insulter une femme qui tombe. On voit bien qu'il n'a pas été contrôleur dans un tramway, mais n'insistons pas. Comment conclure ? Je ne demanderai pas aux privilégiés qui vivent douillettement dans l'atmosphère tiède des bureaux d'écouter toujours avec un sourire d'amour les grognons et les empotés dont une grande partie du public se compose. Mais qu'ils ne méprisent pas trop visiblement le client troublé qui se trompe de guichet. Aujourd'hui, l'État vend de tout. Et le monsieur timide, qui, ayant pénétré dans le cabinet du juge d'instruction, demande à ce haut personnage 1 kilo de confiture, n'est pas nécessairement un imbécile. C'est peut-être un homme de génie qu'on a mal renseigné. Un homme moral. Mon ami Gaspard commence à m'inquiéter. La pratique de la vertu est sa préoccupation constante et il deviendra la proie de l'idée fixe si l'on ne parvient pas à l'intéresser un peu aux événements du monde extérieur. Il est venu me voir et, à peine assis, il a déclaré « Cette grande guerre n'aura rien changé. » Je l'ai tout de suite interrompu. « Permettez, cette guerre aura tout de même produit quelques changements en Russie, en Belgique, en Allemagne et d'ailleurs dans tous les pays. Je veux dire qu'elle ne produira aucun changement essentiel. Elle ne modifiera pas la conduite des hommes. Sans doute, le prix des choses aura augmenté et il y aura partout des impôts nouveaux et des lois nouvelles. Enfin, ici et là, les décors de la scène sur laquelle s'agitent les pantins que nous sommes ont été sensiblement transformés. Mais quand la paix sera revenue, la saveur de la vie sera la même qu'autrefois. Non, Gaspard, ce n'est pas vrai. Si les Allemands avaient été victorieux, s'ils avaient, par exemple, gardé la Belgique, la vie aurait eu une saveur beaucoup plus amère. L'événement aurait prouvé la toute-puissance des criminels. Or, c'est la justice qui a triomphé, et cela est réconfortant. Balthazar, vous accordez trop d'importance à ce que disent les journaux. Depuis plus de 4 ans, les journalistes attirent constamment notre attention sur ce qui se passe dans le monde. Nous sommes, disent-ils, à un tournant de l'histoire. Les conséquences de cette guerre seront formidables. Et avec une humilité excessive, nous avons cru que les petits événements de notre existence quotidienne étaient dépourvus d'intérêt. Or, rien n'est plus important que ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Pour les hommes de bonne volonté, il n'y a pas d'histoire. À toutes les époques, l'être moral a sa propre guerre, toujours la même, et qui recommence chaque jour. Il a à combattre le mal qui est en lui. Il est plus tourmenté par les petites injustices qu'il commet sans cesse que par les inévitables infamies des princes. Voyons, Balthazar, quelle idée mélodramatique vous faites-vous de la justice? Depuis 4 ans, des milliers de spectateurs assistent au duel de la justice et de l'iniquité, comme s'il s'agissait d'une émouvante représentation théâtrale. La justice n'aura la victoire que le jour où elle régnera dans les cœurs et dirigera la conduite des individus. Après cette guerre, serons-nous plus justes qu'avant? Toute la question est là. Il ne faut pas trop s'intéresser à ce que font les grands personnages de l'histoire. Il y a, dans le drame humain, des premiers rôles qui méritent notre admiration et notre amour. Il y a l'artiste, il y a le poète, il y a le penseur. Nous n'avons rien de mieux à faire que de comprendre leurs œuvres et de nous nourrir autant que possible de ce qu'ils nous apportent. Mais, en matière de justice, nous n'avons pas à nous effacer devant des compétences, devant des autorités. Pour pratiquer la vertu, aucune spécialisation n'est nécessaire. Dans ce domaine-là, chacun de nous a sa propre tâche à accomplir. Dans cette grande guerre, où tant d'hommes sont morts pour la cause du droit, des millions de non-combattants se sont contentés d'être des spectateurs qui souhaitaient de toute leur âme la victoire du juste. Est-ce que, pour eux, tout sera fini quand le rideau tombera? À quoi se réduira leur vie morale quand ils ne pourront plus l'alimenter avec l'héroïsme des autres? La guerre n'aura pas résolu le grand problème. Je continuerai à donner à mes enfants de bons conseils et quelques mauvais exemples. Je garderai mes mauvaises habitudes. Et mon égoïsme fera souffrir ceux au milieu desquels je vis. Et pour ne pas compromettre mon repos, je me tairai dans des cas où mon devoir sera de parler. L'injustice sera peut-être aussi fréquente qu'autrefois. Gaspard, quoi que vous disiez, il s'est produit dans le monde depuis 1914 des événements d'un intérêt immense. Vous accordez une importance exagérée au pénible débat que vous avez avec votre conscience. Pour l'humanité, s'il ne s'agissait que de moi, interrompit Gaspard, mon exagération serait en effet grotesque. Mais il s'agit de l'humanité entière. Si les hommes aimaient vraiment la justice, ils parleraient tous comme je viens de le faire. Là-dessus, Gaspard me serra la main et il s'en alla. On pourrait fort bien s'en passer. Frédéric avait l'habitude de boire un vermouth avant son souper. Un soir, il se dit « Si je me refusais cet apéritif, en souffrirais-je ?» Il fit l'expérience et constata qu'il n'en souffrait pas. À partir de ce jour, le vermouth n'occupa plus aucune place dans sa vie. Le lendemain, Frédéric, étendu sur sa chaise longue, se mit à réfléchir. « Je m'accorde sûrement, songeait-il, beaucoup de choses dont je pourrais fort bien me passer. » Il venait précisément de lire un article dans lequel l'auteur émettait des idées très justes sur les Allemands, sur la guerre, sur la justice et sur le patriotisme. Or, son journal lui servait ces idées excellentes 2 ou 3 fois par semaine depuis plus de 4 ans. Frédéric prit donc la résolution de vivre désormais sans lire les journaux. On peut, à la rigueur, s'en passer. Pour cesser de fumer, il dut faire un effort. Mais au bout de 3 jours, il était débarrassé de sa mauvaise habitude. Et en songeant à toutes les victoires que sa volonté remporterait encore, il éprouvait une joie profonde. Parce qu'il avait moins de désirs, il se sentait plus libre. « Est-ce que les gens que je vais voir sont tous mes amis ?»« Certes pas !» Ayant dit cela, Frédéric diminua considérablement le nombre de ses visites. Il reconnut aussi que, dans le courant de la journée, nous disons beaucoup de paroles dont nous pourrions très bien nous passer. Il résolut de parler dans les seuls cas où il aurait quelque chose à dire. Le silence dans lequel il s'enferma inquiéta sa fidèle cuisinière, qui osa lui demander « Est-ce que monsieur est malade ?» Il répondit « Non, Mélanie, merci, je ne me suis jamais senti aussi fort. » D'ailleurs, Mélanie s'en alla bientôt, car monsieur avait décidé de supprimer dans son alimentation tout ce dont on peut fort bien se passer. Lorsqu'il apprit que sa fiancée était revenue d'Angleterre, Frédéric alla la voir en ayant soin de laisser sur sa table de nuit son faux col et sa cravate dont il pouvait très bien se passer. Il expliqua à sa chère Henriette en quoi consisterait leur vie commune, où les choses inutiles ne trouveraient aucune place. La douce Henriette l'écouta en souriant, et lorsqu'il partit, elle lui donna sa main à baiser. Puis, tout de suite après son départ, elle lui écrivit ce court billet. « Cher Frédéric, il y a dans vos principes une réelle grandeur. Allez jusqu'au bout de votre idée. D'innombrables expériences prouvent qu'un homme peut fort bien se passer d'épouse. Nous ne nous reverrons plus jamais. Adieu. Votre Henriette, déjà consolée. » Ayant lu ces lignes, Frédéric éternua. Car, à ce moment-là, il n'aurait pas pu s'en passer. Puis, il se dit avec orgueil qu'il allait continuer à avancer dans la voie de la logique. Ses dépenses avaient beaucoup diminué. Et il avait trop d'argent. Mais il ne donna pas son superflu à ses contemporains, car ceux-ci avaient prouvé qu'il pouvait fort bien s'en passer. Sa sagesse augmentait sans cesse. Il fut abandonné par son dernier ami le jour où il eut l'idée de raccourcir énormément les canons de son pantalon. À force de simplifier sa mise, il finit par attirer l'attention des chiens de son quartier, qui se mirent à aboyer sur son passage. Un grand vide s'était fait en lui, car il était parvenu à débarrasser son esprit de toutes les futilités qui passionnent les hommes. « Il ne faut pas peler l'oignon jusqu'au bout », dit un proverbe scandinave. Frédéric comprit enfin qu'on peut fort bien se passer de la vie. Et il s'en alla. Il nous laisse l'exemple d'un individu énergique qui sut conformer sa conduite à ses idées. Mais nous aurions fort bien pu nous en passer. J'aurais aussi très bien pu me passer de vous raconter cette histoire, mais je ne suis pas un type dans le genre de Frédéric. Point de vue. Les jugements que les hommes portent sur leurs semblables seront toujours incomplets et contradictoires. La diversité des opinions dans ce domaine tient à des causes multiples. Je n'en indiquerai qu'une. Ceux qui nous jugent ne sont pas tous placés au même point de vue. Ils ne voient pas tous le même aspect de notre personne morale ou physique. Le coiffeur obligeant, qui consent à nous laver périodiquement la tête, nous voit par en haut. Tel penseur au regard intelligent et au sourire spirituel a peut-être un occiput d'imbécile. Car pour son coiffeur, qui a fait des milliers d'observations sur les cuirs chevelus et sur les boîtes crâniennes, chaque occiput a une physionomie caractéristique. Et ce spécialiste range sans doute dans la catégorie des sales têtes celle dont la forme irrégulière rend plus difficile les shampoings. Pour lui, comme pour les anciens philosophes grecs, la forme sphérique est la forme parfaite. Le jugement du dentiste est moins superficiel que celui du coiffeur. Son regard est plus pénétrant. Il est, avec le chirurgien, un des rares observateurs qui voit en nous. C'est en quelque sorte l'écorché humain qu'il a sous les yeux pendant qu'il travaille. Mon dentiste m'a dit un jour, « On a inventé les chemins de fer, le télégraphe, le téléphone, la lumière électrique et le cinéma. Mais croyez-moi, le fond de l'homme ne change pas. » Je l'ai cru. C'est un psychologue auquel rien n'échappe. C'est par le petit bout de la luette qu'il nous regarde. Signe particulier, le dentiste ne croit pas en l'hypocrisie humaine. Cela se comprend. Il n'a jamais vu une de ces bouches qui souffle tantôt le chaud, tantôt le froid. Il est constamment penché sur une bouche immense qui souffle le chaud. Les photographes ne sont pas d'accord avec les dentistes. Les bienfaisants professionnels qui s'ingénient à retarder la ruine de nos dents, noires, jaunes ou bleues, voient l'homme tel qu'il est. Les photographes le voient tel qu'il voudrait être. En effet, le pitoyable fantoche qui vient s'asseoir devant leur objectif essaie toujours d'avoir un air distingué, une expression intelligente ou une attitude martiale. L'opérateur est quelquefois un humoriste qui dit impérieusement à son patient « Souriez !» Puis il appuie sur un bouton. 1, 2, 3, le sourire est capté. Désormais, le malheureux, dans un cadre, sur un piano, sourira d'une manière permanente et stupide à la femme de chambre qui viendra chaque matin épousseter les meubles du salon. Cela me fait songer à Chose, le comédien à la mode, pour qui l'humanité est un parterre de boules blanches qui sourit niaisement. L'homme qui, à la guerre, derrière son guichet, vend du matin au soir des billets de chemin de fer, est surtout frappé par la banalité des paroles humaines. Il a constamment sous le nez des êtres courbés, dont il n'aperçoit que le visage et les mains, et qui, à peu de choses près, lui disent tous la même chose. Le médecin méritera un jour une étude à part. Mieux que personne, celui-là sait à quoi nous tenons réellement. Il y aura aussi à examiner avec soin le cas du juge d'instruction, qui, lorsqu'un prévenu est innocent, trouve que c'est louche. J'ai trouvé dans le calepin d'un pédicure cette formule lapidaire. Les pieds sont toujours moins élégants que les bottines. D'ailleurs, cela a été constaté, tous les pédicures sont des pessimistes. Le caractère très spécial de son horizon interdit sans doute au cul-de-jatte les vastes pensées. Lui aussi est un désabusé. Il sait que l'humanité se compose essentiellement de pieds. Et quand on voit le pied, la jambe se devine, hélas. Moi, la milliardième partie. Des spécialistes qui savent compter affirment que le nombre des humains est supérieur à 1600 millions. Au plaisir de refaire ce recensement total, je préfère la douceur de croire. Je ne représente donc pas la milliardième partie de l'humanité. Autrement dit, la fraction d'humanité que constitue mon cher moi commence par les chiffres 0,000,000,000,000. Après ces chiffres, il en vient heureusement d'autres. C'est égal. Il y a trop de zéros dans la fraction décimale que j'ai commencé à écrire. Cela me déprime. Je n'avais jamais essayé, jusqu'à ce jour, d'évaluer exactement l'importance du rôle que je joue ici-bas. Quel coup ! Et dire que pendant des années, je me suis appliquée à propager mes idées pour hâter la venue des temps nouveaux. Il me semblait bien que les effets de ma propagande étaient difficiles à apercevoir. Désormais, mon insuccès ne m'étonnera plus. Ceux qu'il s'agit de remuer sont décidément trop nombreux. Et après tout, la résistance qu'il m'oppose n'est-elle pas légitime? Chacun de mes semblables n'a-t-il pas, comme moi, des goûts, des croyances et des principes à défendre? Mais que dis-je? J'ai commis tout à l'heure une erreur grossière en exprimant ma valeur personnelle par un chiffre. Tous les représentants de la race humaine ne sont pas des unités équivalentes. Ceux qui ont fait le recensement de la population du globe ont compté toutes les têtes, sans se soucier de ce qu'elles contiennent. Ils ont pris au sérieux d'informes moutards qui ne savent pas encore dire « ba baby bobu ». Moi, je sais dire « ba baby bobu » à la perfection, dans un sens et dans l'autre. On a aussi fait figurer dans le grand total les macaques parfumés, les nègres, les pachas gélatineux et assoupis, les marchands de cacahuètes, les cul-de-jatte à roulettes, les joueurs de loto, les forçats, les aliénés, les vieilles duchesses, fardées et inutiles, les empereurs en fuite, la femme à barbe, les pédants, mon insupportable valet de chambre, et ces affreux industriels qui fabrique de l'huile de noix avec des hannetons. Et j'en passe que, par politesse, je ne veux pas nommer. J'ai été noyée parmi ces pitoyables unités. Or, moi, j'ai des diplômes, j'écris dans les journaux, et mes discours sont reproduits à 36 000 exemplaires. Bref, je suis un de ceux qui éclairent la conscience moderne. en ne m'accordant pas plus d'importance qu'à l'un des bipèdes susnommés. Serait-on équitable? Ne me dites pas qu'il y a par contre sur la terre des hommes dont l'utilité est beaucoup moins hypothétique que la mienne. Ne me dites pas qu'on se passerait moins facilement du paysan, du boulanger, du mineur et de quelques autres travailleurs silencieux que de moi. Dites-moi tout ce que vous voudrez, mais pas ça. Car je recommencerai à croire que je ne représente pas même la milliardième partie de l'humanité. Et cette pensée me serait funeste. Si je ne me faisais pas une idée exagérée de ma valeur, de mon importance et de mes droits, je serais démoralisée. Durant ces dernières années, on a beaucoup parlé de l'impérialisme. Remarquons à ce propos que chacun de nous est un impérialiste qui, plus ou moins timidement, plus ou moins habilement, plus ou moins brutalement, essaie d'étendre sa zone d'influence dans le monde. Seuls les procédés diffèrent d'un individu à l'autre. Il y a celui qui cogne, et il y a l'être faible et pacifique qui, par son sourire ou par ses discours conciliants, s'efforce de désarmer l'adversaire. Soyons équitables, mais ne le soyons pas trop. Sachons, par moments, ignorer les droits des autres. En renonçant complètement à notre impérialisme organique, à notre égoïsme sacré, nous renoncerions du même coup à la lutte et à la vie. Quand ma dernière heure sera venue, je serai juste. Je n'aurai plus aucune ambition. Je me ferai une idée exacte de mon importance. Et je consentirai même, si l'on guide ma main tremblante, à ajouter quelques zéros à ceux qui, dans ma fraction décimale, précèdent le premier chiffre significatif. Je proteste. L'autre jour, un de mes spirituels confrères a porté sur le baromètre un jugement sévère. Il ne m'en voudra pas si je dis que ces critiques me paraissent injustifiées. D'une manière plus générale, je voudrais répondre aux personnes qui sont portées à trouver que tout va mal. Et d'abord, les choses dont nous nous servons sont condamnées au mutisme éternel. Elles ne peuvent pas se défendre quand un brillant journaliste daube dessus. Les tourner en dérision, c'est donc remporter sur elles une victoire trop facile. Et puis, ont-elles tant de défauts? Quant à moi, je reconnais chaque jour leur grande utilité. Le baromètre fait ce qu'il peut. Sans doute, il n'est pas toujours à la hauteur des circonstances. Mais à chaque instant, il est exactement à la hauteur où il doit être. Très sensible, il indique les moindres variations de la pression atmosphérique. Et ce n'est pas sa faute si les hommes donnent parfois à ces petites variations une signification qu'elles n'ont pas. Le thermomètre a une conduite exemplaire. Il monte quand la température s'élève. Et dans le cas contraire, il descend. Je suis satisfait aussi de mon moulin à café. Lorsque je lui confie mon excellent mélange Moka-Java et que je tourne la manivelle avec persévérance, c'est du café moulu que je trouve dans le tiroir de l'instrument et non pas du plâtre pilé. Je rencontre souvent des gens qui se plaignent des tramways. Ils disent « Le tram n'est jamais là quand on voudrait le prendre. » Je proteste contre cette accusation. Le tram ne peut pas contenter tout le monde en même temps. S'il était là au moment où j'en ai besoin, il provoquerait la mauvaise humeur de Bolomé qui l'attend à l'autre bout de l'avenue. Je le certifie, je vois très fréquemment des couteaux qui coupent, des montres qui marchent bien, des allumettes qui s'allument quand on les frotte et des chaises qui résistent quand on s'assied dessus. À une époque où l'humanité nous offre un spectacle si inquiétant, sachons voir le bon côté des choses. La volonté des peuples. Je ne veux rien dire du subversif. J'ai, à un trop haut degré, le sentiment de mon ignorance pour oser critiquer les décisions des hommes d'État qui sont en train de remettre un peu d'ordre dans le monde. Ça avance lentement, mais, paraît-il, ça avance. C'est pourquoi, l'autre jour, j'ai fait taire la protestation de mon faible cœur après avoir lu, sur l'abdomen d'un vendeur de journaux, ces mots catégoriques. Le service militaire obligatoire sera maintenu en Europe. On nous avait dit que la victoire du droit sur la force permettrait le désarmement universel. Mais quand je songe à mes ennemis héréditaires, mon chef de bureau, mon valet de chambre, ma cuisinière et le chien de mon voisin, quand je songe à tout ce qui menace les êtres pacifiques, je comprends qu'il est bien imprudent de désarmer. J'obéirai donc avec un profond respect aux plénipotentiaires qui ont pour tâche de ramener les peuples égarés dans la voie du progrès. Mais il y a une remarque que je tiens à faire. Les spécialistes qui, dans le sein des commissions, préparent le bonheur de l'humanité, n'ont pas tenu à connaître nos timides desiderata. J'ai consulté ma lingère, mon facteur, le professeur de flûte de mon fils, mon marchand de bois, mon pharmacien, mon pédicure et l'homme du gaz. Aucun de ces intéressés n'avait reçu un questionnaire à remplir. Aucun d'eux n'avait été appelé au téléphone par M. Clémenceau. J'ai prié mes amis de faire dans leur entourage la même enquête. Et tous ont obtenu la même réponse négative. Ainsi, la question de savoir si les peuples doivent recommencer à faire des grands préparatifs en vue de guerres futures a été tranchée par une douzaine et demie de législateurs mondiaux qui ont cru devoir négliger les vœux des êtres sentimentaux dont se composent les foules. Mais nous pouvons avoir confiance en eux, car, comme dit Courteline, ce ne sont pas des hommes, ce sont des messieurs. Une pauvre femme. Dans le discours que le ministre Orlando a adressé à la population romaine le 26 avril 1919, il y a un passage qui produit encore sur moi une impression profonde, et que voici. À la frontière, une pauvre femme en deuil, ayant perdu un de ses fils à la guerre, et en ayant un autre à l'armée, m'a dit « Je suis avec vous ». Je n'ai jamais beaucoup réfléchi aux droits historiques que l'Italie peut avoir sur la côte dalmate. Les hommes d'État de la péninsule sont infiniment mieux renseignés que moi là-dessus. Je suis d'ailleurs un esprit respectueux, et je crois tout ce que disent les bons livres, ceux qui sont garantis par le gouvernement. Par exemple, je n'élève pas mon pacifisme à la hauteur d'un principe. Je sais qu'il est, chez moi, le signe d'une tare physiologique. Car j'ai vécu autrefois à Capoue, ville tiède et parfumée, où j'ai perdu les vertus martiales que je tenais de mes aïeux. Puisque les écrivains officiels de tous les pays affirment que la gloire militaire a seule le pouvoir de donner à un peuple le sentiment de sa grandeur et un peu de dignité, je les crois. Mais je pense à cette pauvre femme qui a perdu un de ses enfants à la guerre et qui s'expose à en perdre un second. Sait-elle bien où est la côte dalmate? Cela n'est pas sûr. Il n'est pas certain qu'elle se fasse une idée très claire des intérêts vitaux de l'Italie. Ce qu'elle peut savoir du glorieux passé de la patrie et des devoirs actuels du gouvernement lui a été appris par des pédagogues et des journalistes. Mais il y a une chose à laquelle elle doit croire avec plus de force qu'à la lumière du jour. Elle ne peut pas douter du bonheur immense qu'une mère éprouve en serrant dans ses bras son enfant qui a échappé à la mort. Les femmes oublient décidément trop que leur tâche, différente de celle des hommes, est aussi noble que la leur. L'éducation nationale fait des progrès inquiétants. Que seront les mères lorsque l'amour maternel ne sera plus leur instinct le plus profond? Faudra-t-il bientôt recommencer à leur enseigner l'égoïsme sacré? Un monde compliqué. Il y a 10 000 ans, au temps de nos ancêtres préhistoriques, on ne voyait pas, comme aujourd'hui, derrière les vitrines des librairies, des livres intitulés « Ce que toute femme de 45 ans devrait savoir ». Cela ne tient pas seulement au fait qu'il n'existait alors ni livres ni librairies. Mais bien avant l'âge de 45 ans, les sauvages dont je parle, dames et messieurs, savaient tout ce qu'ils devaient savoir, rien de plus, rien de moins. Les ethnologistes se font peut-être de l'homme primitif une idée différente de la mienne. Cela m'est absolument égal. Que chacun fasse son métier et les vaches seront bien gardées. Je dis donc que, très jeune, le sauvage allait déjà à la chasse et à la pêche. Un flair admirable lui permettait de distinguer les champignons vénéneux des champignons comestibles et les bêtes dangereuses des bêtes inoffensives. Pour lui, tout bipède humain, portant un vêtement différent du costume national, 3 plumes de coq, un caleçon de bain et un collier de corail, était un étranger et par conséquent un ennemi. Lorsqu'il en voyait apparaître un, il entendait la voix claire de sa conscience qui lui disait « Tu peux tuer cet homme avec tranquillité ». À l'âge de 15 ans, il était capable de fabriquer lui-même ses armes et de réparer son caleçon de bain. Durant toute sa vie, il avait une morale simple et facile à pratiquer, agir conformément à la coutume des aïeux. Ceux au milieu desquels il vivait étaient vraiment ses semblables, car ils faisaient tous la même chose que lui. Enfin, quand il partait pour la guerre, il savait pourquoi. L'ennemi héréditaire avait volé une femme de la tribu, ou peut-être chipper au sorcier son os de gigot rituel. Donc, en s'étant reculé, l'homme jouissait d'une excellente santé intellectuelle. Il connaissait la paix de l'âme, il comprenait tout, pour cette simple raison qu'il ne se posait pas de problèmes inutiles. Aujourd'hui, l'humanité prise dans son ensemble est beaucoup plus riche matériellement et intellectuellement qu'il y a 10 000 ans. Mais, à cause de cela, l'individu vit dans un monde très compliqué, auquel il ne comprend pas grand-chose, parce qu'on lui a enseigné trop de règles, parce qu'il a trop de notions, il est devenu hésitant. Il a l'embarras du choix. Et puis, son intelligence ne lui permet plus de résoudre les questions qui pour lui sont les plus importantes. Il doit constamment s'adresser à des spécialistes qui, s'il y met le prix, lui procureront ce dont il a besoin. Il est incapable de fabriquer lui-même son revolver, son piano, ses chaussettes et ses macaronis. Il ne sait plus réparer son caleçon de bain et il doit apporter sa tête à un coiffeur pour que celui-ci la lui lave. En se promenant, il voit dans les devantures des magasins des instruments étranges dont il ne connaît ni le nom ni le mode d'emploi. Les membres de sa tribu se livrent à des travaux dont il ne peut pas se faire la moindre idée. Chaque jour, il entend parler du cours de la bourse, de la politique étrangère, de la démocratie, de l'électricité. et il est à peine assez intelligent pour reconnaître que tout cela est bien obscur. L'uniformité des costumes le trompe, et il lui arrive d'aimer autant un homme de la tribu voisine que ses compatriotes. Et puis, quand la guerre éclate, c'est pour des raisons que les spécialistes de la diplomatie n'expliquent pas clairement à ceux qui vont mourir. On veut que les écoliers connaissent toutes les idées morales qui circulent dans le monde depuis 2000 ans. Et ils constateront peut-être un jour, devant les tribunaux, qu'ils s'étaient toujours trompés dans leur manière de concevoir l'honnêteté et la justice. Nous sommes plus ignorants que les sauvages d'il y a 10 000 ans. Mais cela ne nous gêne pas, car dans toutes nos démarches, nous suivons des chemins bordés de nombreux poteaux indicateurs. Et puis, nous sommes satisfaits, car nous savons faire des phrases sur toute chose. L'utilisation des vieillards. Dans les pays chrétiens, en l'année 1918 de l'ère chrétienne, on peut encore voir au bord des routes, de loin en loin, des vieillards qui, du matin au soir, cassent des cailloux. Ils sont payés au mètre cube et non pas à l'heure, car la paresse humaine n'est pas un mythe. Je ne suis pas le fanatique de la fraternité. Je suis l'un des 93 moralistes lausannois qui, si l'on insistait un peu, consentiraient à faire partie de la classe brillante des oisifs. Autrement dit, ma conscience, que j'ai souvent rabrouée avec vivacité, ne me fait plus sentir ces picotements avertisseurs lorsque je néglige trop longtemps mes devoirs envers mes frères. Mais elle continue à me surveiller, et je ne puis éviter le regard de son œil goguenard lorsque, pour justifier les privilèges dont je jouis dans la société, j'allègue mes mérites. Je ne suis jamais parvenue à lui faire prendre mes mérites au sérieux. Et l'autre jour, en passant dans la voiture du baron Frasque, devant un vieux casseur de cailloux qui avait très chaud, j'ai éprouvé un léger malaise. L'œil me regardait. Ma conscience aurait dû me laisser tranquille, car en ce moment-là, je travaillais. J'enseignais l'anglais à un baron riche, athlétique et obtus. Peut-être voulait-elle attirer mon attention sur le fait que la collectivité à laquelle j'appartiens est peu généreuse envers ceux qui, dès l'âge de 15 ans, pendant un demi-siècle, ont fait pour elle toutes les vilaines besognes. Ici, j'entends les objections des gens raisonnables. Ils disent « Celui qui, à l'âge de 65 ans, en est réduit à casser des cailloux au bord de la route, n'a sûrement pas vécu comme il aurait dû vivre. Il a été imprévoyant. Si, dès l'âge de 20, il avait économisé 2 francs par jour, et qu'il eût placé à intérêt composé aux 4% à la fin de chaque année, les 730 francs mis de côté, nous ne tenons pas compte des années bissextiles. Il posséderait, quand pour lui sonnerait la soixantaine, la jolie somme de 60 342 francs 70 centimes. Mais il n'a pas voulu renoncer à son tabac, ni à sa chopine. Le samedi soir, il allait voir le cinéma. Et il a commis sûrement encore bien d'autres fautes. Il savait pourtant bien que la vieillesse viendrait. Voilà comment parlent les justes, qui veulent que le vice soit puni et la vertu récompensée. Mais moi, je n'ai pas le droit d'être sévère pour les vieux casseurs de cailloux. Car je suis aussi de ceux qui n'ont pas vécu comme ils auraient dû vivre. Je dirais même que j'ai de l'estime pour l'homme qui, à 65 ans, est encore capable de casser des pierres 7 ou 8 heures par jour. Car celui-là a résisté à bien des tentations, et remporté bien des victoires. Puissions-nous tous tenir aussi longtemps que lui. Et puis, il faut tout prévoir. Le petit-fils du fils de cet homme fera peut-être un beau cadeau à l'humanité. La collectivité ne peut pas calculer avec exactitude ce qu'elle doit à l'un de ses membres qui a travaillé 50 ans de suite. Elle s'expose donc à le voler en lésinant trop sur son salaire. Le plus sûr moyen d'être juste, c'est d'être généreux. La société moderne, si prodigue et si luxueuse à certains égards, montre encore une mesquinerie honteuse dans la manière dont elle utilise les restes. Sommes-nous décidément trop pauvres pour permettre aux vieillards de se reposer avant le moment où ils seront vidés de toute substance exploitable, comme dit Léon Frappier? La peine quotidienne des hommes sera moins amère quand chacun d'eux pourra espérer quelques années de tranquille vieillesse pour contempler le merveilleux décor de la vie. Puissais-je ainsi m'asseoir au faîte de mes jours et contempler la vie exempte enfin d'épreuves, comme du haut des monts on voit les grands détours et les plis tourmentés des routes et des fleuves.